Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, antisémitisme, antiparlementarisme, comme un air de fascisme. Les actes antisémites recensés par le ministère de l'Intérieur avaient diminué en France en 2016 et 2017. Ils sont de nouveau en hausse et les chiffres sont spectaculaires. Une augmentation de 74% l'an dernier, de 311 à 541 actes. Ces statistiques sont d'autant plus préoccupantes qu'elles sont rendues visibles par des faits très récents. À Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, un arbre rendant hommage à Ilan Halimi a été coupé. À Paris, des croix gammées ont été dessinées sur deux portraits de Simone Veil. Et sur la devanture d'un restaurant parisien, cette inscription « Juden ». Pour Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, le mouvement des Gilets jaunes a contribué à cette hausse sur les dernières semaines de l'année. Un mouvement qui s'est aussi caractérisé par une série de violences indirectes contre des parlementaires, insultes, permanence dégradée et dernièrement, tentative d'incendie du domicile du président de l'Assemblée nationale. Or, ces phénomènes concomitants renvoient au souvenir des années 30 et de la montée du fascisme. Mais que vaut ce parallèle historique ? Antisémitisme, antiparlementarisme comme un air de fascisme ? C'est la question que nous allons poser ce soir à deux des membres de notre club. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouve chaque samedi à 12h45 sur France Culture pour la suite dans Les Idées. Vous dirigez par ailleurs le site AOC, Analyse Opinion Critique. Pour discuter avec vous, Coralie Delhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste et journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, notamment, alors on peut en citer un différent à chaque fois, notamment Polony TV.
Voilà.
Et puis notre invité cette semaine, l'invité du club, c'est Alexis Lacroix, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Vous êtes le directeur délégué de la rédaction de L'Express et vous avez publié l'an dernier, J'accuse, 1898-2018, permanence de l'antisémitisme aux éditions de l'Observatoire. Alors c'est à vous Alexis Lacroix que je vais poser la première question. Donc je reviens sur ces actes d'autant plus spectaculaires qu'ils touchent à des personnalités. Je rappelle donc ces portraits de Simone Veil barrés d'une croix gammée. L'arbre en hommage à Ilan Halimi, ce garçon qui avait été capturé par le fameux gang des barbares, qui avait été assassiné. Hommage lui avait été rendu à travers ces deux arbres érigés à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il y en a un qui a été coupé, il y en a un autre qui a été abîmé. Est-ce que la simultanéité, disons, ou quasi-simultanéité de ces actes vous surprend?
Oui, tout de même, mais remontons à la racine du mouvement qui, depuis 3 mois, marque l'actualité et fait autant débattre, à juste titre, que sont les Gilets jaunes. Puisque ces actes ont été commis, c'est vrai, dans une certaine concomitance avec la manifestation d'une frange, on va dire, radicalisée de ces Gilets jaunes.
Sans que l'on puisse établir un lien
naturellement
absolu. Hein, c'est-à-dire on ne sait pas qui a fait ces actes.
Naturellement. Hein, c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans l'interprétation. Mais enfin, justement, en restant extrêmement prudent dans l'interprétation, si on fait une analyse un peu radicale, c'est-à-dire qui revient à la racine du phénomène, on est obligé d'admettre que dès le début, les Gilets jaunes, ils étaient clivés, ils étaient fracturés, ils étaient polarisés entre plusieurs tendances idéologiques et politiques, naturellement. Il y avait des gens qui étaient prêts, en quelque sorte, à s'accommoder avec la démocratie représentative et libérale, libérale au sens politique du terme, naturellement. Et puis il y avait des gens qui s'expriment aussi dans les médias, qui font parler d'eux, de M. Drouet à M. Chalençon, qui sont des ennemis absolus de la démocratie représentative et qui ont d'autres modèles. Alors on va évidemment en débattre au cours de cette émission, mais en tout cas leurs modèles ne sont pas ceux de la démocratie représentative et libérale.
Et quel lien vous faites avec l'antisémitisme ?
Eh bien, c'est que je pense que, si vous voulez, malheureusement, la séquence à laquelle on a assisté depuis 3 mois, elle a, en quelque sorte, participé d'une libération de la parole, de l'expression de l'antisémitisme. Alors, il s'agit d'ailleurs probablement d'un antisémitisme très composite, qui doit beaucoup au néo-antisémitisme, hein, celui qui s'est fait jour à la faveur de la politisation française du conflit du Proche-Orient. Il y a toute une histoire aujourd'hui qui a été écrite de ce phénomène qui remonte au tout début des années 2000, qui a évidemment en grande partie lié avec l'émergence de l'islamisme politique dans certains territoires perdus de la République, mais pas seulement. Et puis, ne nous leurrons pas, on a beaucoup, je crois, sous-estimé l'importance encore structurale de l'antisémitisme dans une part non négligeable de l'extrême droite. Ce que vient de montrer, à mon avis, mais là on va être prudent, mais ce que vient de montrer la nouvelle séquence de flambée d'antisémitisme, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là, l'antisémitisme ne surgit pas seulement des quartiers, il est aussi, si j'ose dire, à rapporter à une vieille matrice idéologique française qui est celle de l'extrême droite.
Alors, une dimension structurelle et puis une dimension plus conjoncturelle, donc liée à ce mouvement social des Gilets jaunes, évidemment. Alors, il faut toujours être prudent et le redire. Il ne s'agit pas d'essentialiser ce mouvement et de dire que tous
absolument.
Les Gilets jaunes...
C'était pas évidemment, ce qu'on disait,
d'ailleurs. Non, bien sûr, mais voilà, je préfère prendre quelques précautions oratoires dès qu'on évoque ces questions. Sylvain Bourmeau, est-ce que vous partagez plus ou moins cette analyse ?
Je partage les grandes lignes de l'analyse. C'est une question complexe. Il faut être rigoureux dans les catégories qu'on utilise, en particulier distinguer les actes des opinions. Là, en l'occurrence, ce sont des actes parce qu'on a des phénomènes parfois contradictoires, paradoxaux. C'est-à-dire que quand les actes antisémites augmentent, et il y a eu plusieurs moments dans les années récentes, depuis 25 ans, où ça s'est produit, à la faveur d'ailleurs soit d'événements internationaux du conflit au Proche-Orient, soit par exemple d'attentats en France, l'affaire Mohamed Merah, soit de profanation du cimetière de Carpentras. Dans ces moments où il y a des actes très forts, il y a des phénomènes qui font qu'on a d'autres actes moins graves, mais qui se produisent aussi et qui prennent la forme d'actes. Et ce qu'on observe à ce moment-là, c'est qu'au contraire, on voit monter, on voit baisser les opinions antisémites. Il y a des opinions d'empathie à l'égard de la population juive qui sont, d'une certaine façon, liées à ces actes.
Sauf que là, vous en êtes d'accord, il y a une conjonction des deux. Donc, monter des actes, monter des opinions antisémites.
Hein. Alors, il y a un indice de tolérance que publie la CNCDH,
oui,
la Commission nationale
des droits
de l'homme,
voilà,
qui dit qu'effectivement, la communauté qui est la mieux acceptée en France, c'est la communauté juive.
C'est-à-dire avec la communauté noire au même niveau, nettement mieux que les Arabes et encore nettement mieux que les musulmans. Ça, ce sont des chiffres qui sont stables et d'ailleurs qui ont progressé. C'est-à-dire que l'acceptation à l'égard de la communauté juive a été de plus en plus grande. C'est un phénomène constant.
Vous reconnaissez vous-même que ce degré d'acceptation générale par la société française n'empêche pas l'existence de
preuves
d'antisémitisme extrêmement virulent.
Et moi, ce que je voudrais,
sont deux choses différentes.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ce qui se passe maintenant à la faveur de cette situation, de ce contexte politique, et les questions que ça nous pose par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, je voudrais dire deux, trois choses là-dessus. La première, c'est reprendre l'analyse qu'on a fait Pierre Birnbaum dans un entretien au Monde il y a quelques jours. Pierre Birnbaum disait, entre autres choses, qu'il commençait par rappeler que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement antisémite, c'est un mouvement qui, par son existence, rend possible certaines expressions antisémites. C'est très important d'être prudent dans la formulation. Par ailleurs, ce que nous aura permis de découvrir du coup ce contexte politique, c'est que l'histoire qu'on nous raconte depuis maintenant une vingtaine d'années, ce qui est celle d'un nouvel antisémitisme, dont on savait qu'elle était quand même très fragile, cette histoire. Je pense aux travaux de Nona Mayer qui sont très sérieux sur la question et qui conteste l'idée d'un nouvel antisémitisme sui generis. Elle le montre très précisément. On avait publié dans AOC en mois de mai dernier un long article d'elle. Donc là, cette histoire nous montre quoi ? Ben, ce qu'a dit Alexis Lacroix, en grande partie, c'est-à-dire que le vieil antisémitisme français, contrairement à la théorie des vases communicants que certains ont pu imaginer, il existe, il a toujours existé, et il ressurgit dans des contextes qui sont propices à son expression, mais il a toujours été là. Or, on est dans une société française qui, depuis très longtemps, nous explique qu'il y a une immunité au fascisme. C'est la thèse de beaucoup d'historiens français qui a été battue en brèche par Michel Daubry, par Joseph Sternel en particulier, qui me semble très intéressante parce qu'au fond, on n'est jamais sorti de cette histoire et c'est pas parce qu'il y a eu que Hitler était en Allemagne et pas en France et Mussolini en Italie, pas en France, que la France a été immunisée face au fascisme. Donc il y a un fond d'antisémitisme peut-être même encore plus fort dans notre pays que dans d'autres et qui continue de perdurer et c'est pas en projetant les projecteurs sur les quartiers, les banlieues, etc., qu'on laissera dans l'ombre cet antisémitisme français bien, bien traditionnel. Il est là, et là on en voit des expressions assez effrayantes.
Coralie Delhomme, est-ce que vous faites vous aussi le constat que le contexte actuel favorise l'expression de l'antisémitisme ? En tout cas, si ce n'est une résurgence, peut-être le fait que ce soit quelque chose qui redevienne beaucoup plus visible. Encore que si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a quand même eu des actes,
des actes
importants, notamment des assassinats.
Il y a eu des actes extrêmement graves qui ont témoigné parler quand même du fait que le nouvel antisémitisme existe bel et bien. L'antisémitisme de banlieue, on a eu ça avec l'affaire Halimi, on a eu ça avec Mohamed Merah, etc. Mais aujourd'hui, le contexte semble montrer que ça n'est pas seulement ça et que c'est un peu plus large. Et je voudrais revenir sur le mot de concomitance pour éviter qu'on jette l'opprobre sur le mouvement des Gilets jaunes. La concomitance, ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes sont un mouvement antisémite. La concomitance, ça veut dire que le contexte est celui d'une contestation générale et qui a permis à la fois le mouvement des Gilets jaunes et qui permet à la fois la résurgence de l'antisémitisme. Et tout ça a des causes qui sont une crise économique, une crise identitaire, une crise démocratique, qui ont à voir avec la mondialisation, qui ont à voir avec la dissolution de l'État-nation. Et l'ensemble rend propice des mouvements de contestation forts, et en particulier des mouvements de contestation du pouvoir, avec tout ce que ça génère de recherche de causes simplistes, de recherche d'intentionnalité et de rejet effectivement également des pouvoirs. Et dans le vieil antisémitisme français, il y a cette idée que les juifs seraient les étrangers qui ont le plus de pouvoir, qu'ils seraient l'autre puissant, l'autre qui a de l'argent. Et dans tout le discours anti-oligarchique qui a sa légitimité, il y a un facteur propice à l'émergence ou à la résurgence de l'antisémitisme. La concomitance des deux choses ne veut pas dire que les Gilets jaunes sont un mouvement antisémite, pas du tout.
Concomitance ne veut pas dire cause à effet. Hein, voilà.
Bien sûr, je pense que là, ça aura été clair. Par rapport à justement à ces manifestations d'antisémitisme, il y a une manifestation qui est prévue mardi prochain à Paris, à laquelle évidemment tous les citoyens sont conviés, mais ça a été fait à l'initiative de partis politiques. Je crois que c'est le Parti Socialiste qui a initié ce mouvement. 14 partis lancent un appel à un rassemblement, donc le PS, Europe Écologie Les Verts, je ne vais pas citer les 14, les Républicains, le Parti Communiste, La République En Marche. Est-ce qu'en la circonstance, c'est nécessaire, Alexis Lacroix, de manifester une forme d'union sacrée et de le faire rapidement face à ces phénomènes? Est-ce que c'est quelque chose qui a peut-être manqué ces dernières années?
Manqué, ça c'est sûr, mais je crois que quand il y avait eu le début de ce qu'on a appelé, alors je rejoins Sylvain, le néo-antisémitisme, il faut relativiser, enfin le début de la manifestation sur le territoire français de ce néo-antisémitisme, il y avait eu une manifestation assez unitaire en 2012. C'est très important, mais je crois que des manifestations, aussi louables soient-elles, aussi même admirables soient-elles, quand elles émanent de formations politiques qui, en quelque sorte, mouillent leur chemise pour l'occasion, ne remplacent pas le vrai travail qui est un travail culturel, si vous voulez. Un vrai travail sur les esprits, on pourrait dire gramsciste, si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce sont tous les Républicains qui, au-delà simplement d'un moment de communion fervente où on va battre le pavé ensemble, doivent faire un travail pour faire reculer ces représentations ou pour en empêcher la réémergence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le travail collectif, transpartisan, ne fait que commencer.
Ce travail transpartisan, il est il est admis par l'ensemble des formations politiques, y compris celles qui, alors soit qui n'ont pas répondu immédiatement, comme la France insoumise, même si Jean-Luc Mélenchon a dit bon ben voilà, j'étais pas au courant, mais il est évident que la France insoumise va se joindre à ce mouvement. Le Rassemblement national et le mouvement Debout la France n'ont pas été conviés à ce rassemblement, tout en disant qu'ils adhéraient à son principe. Coralie Delhomme, quel commentaire ça vous inspire, justement?
Je ne sais pas. Enfin, les marches, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu déjà auparavant. Mais les marches, c'est presque un peu... C'est dérisoire comparé aux causes véritablement qui font émerger tout ça. Et je répète, une triple crise économique, identitaire et démocratique, et notamment démocratique, avec ce sentiment de dépossession qui conduit un certain nombre de personnes qui recherchent de l'intentionnalité à faire porter le chapeau, parce que ça va avec la hausse du complotisme aussi. C'est-à-dire qu'on cherche de l'intentionnalité, on cherche à comprendre les désordres du monde, et là, c'est vraiment la recherche d'une cause finale unique et simple.
Si je vous interroge aussi sur les partis politiques, c'est aussi dans l'idée qu'il y a peut-être une forme d'ambiguïté chez certaines formations politiques. C'est vrai que quand on connaît ce qu'est l'ADN d'une formation comme le Front National, et qui dit aujourd'hui apporter son soutien à toutes initiatives visant à condamner cet antisémitisme et à assurer la solidarité de la République. Est-ce qu'il y a des raisons de croire ou de ne pas croire en la sincérité de ce discours, Alexis Lacroix ?
Alors, je pense que c'est une affaire très compliquée, mais je rejoins entièrement la grille que propose Coralie quand elle dit, dans des époques au fond de troubles très profonds sur la capacité à situer sur l'échiquier de la représentation, beaucoup de citoyens vont s'en remettre à un imaginaire. Et cet imaginaire, il est complotiste, puisque précisément, il permet de répondre imaginairement à des questions politiques qui ne trouvent pas de débouché. Donc sur ça, je suis d'accord, sur cette grille, je suis d'accord. Mais justement, à partir de là, répondons, mettons les pieds dans le plat. Puisque vous voulez qu'on mette les pieds dans le plat, on va mettre les pieds dans le plat. Il y a des formations politiques qui, j'allais dire, dans leur structure même, c'est structural chez elles, sont dans un bord-à-bord avec le complotisme. On peut faire tous les ripollinages qu'on veut au Front National, on peut faire toutes les dédiabolisations, on peut faire tous les ravalements de façade, il n'en reste pas moins que dans l'ADN de ce parti, chez son fondateur, chez ses fondateurs, qui pour certains d'ailleurs étaient d'anciens collaborationnistes, il y a la vision complotiste du monde. Et cette vision complotiste, dans sa structure, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, elle a partie liée, bien sûr, avec l'antisémitisme, avec la proscription du juif. Donc, évidemment, je ne fais absolument pas le procès à la chef du Front National d'aujourd'hui de partager cette vision du monde, mais en revanche, elle est à la tête d'un parti. Et si on est nominaliste, non mais si on est un peu nominaliste en plus, un parti c'est un nom, mais un nom c'est une mémoire. Quand on est à la tête du Front National, on est dans la mémoire de ça. Quant à la France Insoumise, je voudrais pas être politiquement correct non plus et ne pas voir l'autre côté. Quant à la France Insoumise, on a vu les problèmes qu'elle avait, non pas avec l'antisémitisme, mais avec l'impossibilité de nommer l'islamisme. On l'a vu notamment au moment où, très grossièrement, Jean-Luc Mélenchon s'en était pris à l'ancien Premier ministre Manuel Valls, accusé de tous les maux, parce que précisément, il était, lui, dans une lutte sans faille contre l'antisémitisme. Donc je pense que la France insoumise, elle a aussi, pardon de le dire, mais a balayé devant sa porte, non qu'elle soit, par essence, liée à l'antisémitisme, elle ne l'est en aucun cas, mais elle héberge chez elle des gens qui ne veulent pas regarder la réalité de l'islamisme de certains quartiers.
Alors Sylvain Bourmeau et ensuite Coralie Delhomme.
Alors sur le Front National, parce que moi je dis toujours Front National, c'est pas parce qu'on change de nom que ça change quoi que ce soit, de ce point de vue-là. Donc c'est le Front National, c'est l'extrême droite. Marine Le Pen voulait empêcher les journalistes d'appeler ça l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Donc il y a effectivement toute cette histoire, je vais pas la reprendre, que vient de raconter Alexis Lacroix et qui est structurante pour cette formation politique. Et d'ailleurs qu'on retrouve, je voudrais citer à nouveau les enquêtes mises en avant par Nona Maillard, c'est-à-dire que au fond les opinions antisémites sont beaucoup plus présentes à la droite de l'échiquier politique et à l'extrême droite de l'échiquier politique. C'est une constante dans les enquêtes d'opinion. À l'extrême gauche, on trouve des positions très critiques à l'endroit d'Israël, mais qui ne sont pas des opinions antisémites. Dans tous les cas, dans une nettement moins grande mesure que à la droite dure et à l'extrême droite. Ça, c'est quelque chose de... Et d'ailleurs, à l'extrême droite, il y a des positions aussi critiques à l'endroit d'Israël, qui sont de même nature que celles qu'on trouve à l'extrême gauche. Donc ça me paraît très, très important. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est à quel point c'est très bien d'organiser une marche et des manifestations. C'est toujours extrêmement utile. Mais il faut peut-être s'interroger sur la responsabilité politique plus large qui a permis au fond ce contexte dont on parle et qui autorise ces prises de position antisémites. Je veux dire par là les critiques de l'antiparlementarisme. Et elles émanent de ces deux organisations politiques dont nous avons parlé, le Rassemblement National, le Front National donc, et la France Insoumise. Mais cet antiparlementarisme, il émane aussi du président de la République. C'est-à-dire que l'antiparlementarisme, l'antisystème a été au cœur des discours politiques des trois candidats qui sont arrivés en tête à la dernière élection présidentielle. Il ne faut pas l'oublier. Si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est parce que précisément les deux grands partis de gouvernement, à gauche comme à droite, qui sont les plus respectueux de cette démocratie parlementaire, ont été laminés, sont dans un état de très grande faiblesse, le Parti Socialiste et les Républicains. Et donc, on a ce discours antisystème, on a un président de la République qui veut réduire le nombre de députés, qui dit qu'il y en a beaucoup trop, qui attaque le Parlement, qui attaque les contre-pouvoirs, qui attaque la presse. Il ne faut pas s'étonner qu'avec un discours comme celui-là, qui vient de trois endroits fort différents les uns des autres, eh bien on se retrouve dans ce contexte. Et ce contexte, on le sait, Birnbaum le rappelait dans Le Monde, quand il y a des attaques qui visent l'État, qui visent le Parlement, quand il y a de l'antiparlementarisme, on voit surgir l'antisémitisme. C'est une constante de l'histoire politique de France.
Coralie Delhomme.
Concernant les partis politiques, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que les partis politiques, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont des sortes d'incubateurs qui font se brancher le nouvel antisémitisme et l'ancien. Et je pense par exemple au réseau Dieudonné, au réseau Soral, avec la particularité du discours de Soral, c'est qu'il mélange un certain nombre de constats justes avec des explications délirantes et ça rend son discours assez crédible et ça a beaucoup d'audience chez les jeunes notamment. Et il typiquement mélange le vieil antisémitisme de l'extrême droite et le nouvel antisémitisme avec un public qui est potentiellement des deux obédiences.
Sur le fait qu'on observe justement cet antisémitisme dont les actes sont plus nombreux cette année, beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient l'an passé. D'ailleurs, peut-être faut-il dire que quand on parle d'actes, ça peut être des actes contre des personnes, contre des biens, et ça peut être aussi des menaces. Tout ça rentre dans les actes antisémites. Mais quand on constate ça, et par ailleurs, donc des actes d'antiparlementarisme, comme ceux que j'évoquais en début d'émission, est-ce que vous, Coralie Delhomme, vous faites un lien justement entre ces deux phénomènes qui traduiraient un climat, alors je sais pas comment on peut le qualifier. Mais...
Ça traduit un climat et ça génère un discours anti-oligarchique. Le problème de ce discours, c'est qu'il y a effectivement un problème avec le Parlement. C'est que d'une part, on a l'impression qu'il a été capté pour la défense d'intérêts privés, c'est-à-dire des intérêts des puissants. Et d'autre part, il y a une relative impuissance aujourd'hui du politique, notamment par l'économie, dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de la mondialisation. Et ça tend à discréditer la démocratie représentative parce qu'on a l'impression que le politique n'a plus de prise sur la marche des choses et que le monde va sans que le politique puisse entraver la marge de la mondialisation. Ça génère un discrédit du politique et ça génère aussi un discrédit du Parlement. Et dans le cadre de l'Union européenne, il y a encore quelque chose de très spécifique, c'est que pour une large part aujourd'hui, il y a énormément de droits qui se construisent à l'étage supranational et qui ne se construit plus à l'étage législatif. Il y a tout un pan du droit qui aujourd'hui se fait contre la loi et qui tend à discréditer l'Assemblée nationale et la démocratie représentative.
Voilà, si on pouvait demander à nos amis du Bel Air de baisser un petit peu la musique, le reggae, pour qu'on puisse quand même bien entendre à l'antenne ce qui se passe, ça serait quand même assez sympa. C'est vrai que c'est quand même pas tout à fait la première fois qu'on vient là. Alexis Lacroix.
Alors sur la jonction antisémitisme, antiparlementarisme, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Coralie et par Sylvain. Elle est structurelle, là aussi, des phénomènes qu'on ne qualifiait pas à l'époque de populisme, puisque le mot est plus récent, mais qu'on peut appeler les phénomènes de transgression antirépublicaine. Hein ? Je suis d'accord d'ailleurs aussi avec le terme d'anti-oligarchie, mais justement, il y a eu des phases antérieures, si vous voulez, où il y a eu cette espèce de jonction, de rencontre au sommet de la pyramide de l'excitation sociale entre l'antisémitisme, entre la passion anti-juive, et le rejet du parlementarisme. Juste au prodrome de l'affaire Dreyfus, hein, ça n'a pas encore commencé officiellement. Les intellectuels ne s'en sont pas saisis, Clémenceau non plus, l'Aurore n'a pas publié son fameux appel, etc. C'est Barrès. Barrès va être un des intellectuels organiques de cette jonction. Barrès, il conchit les parlementaires dans les termes suivants. Le Palais Bourbon, écrit-il le 22 décembre 1894, n'est pas, comme on croit, simplement composé de voleurs. Il est aussi composé de traîtres. Et vous aurez, dans les années qui vont suivre, la désignation des traîtres comme étant, bien sûr, Dreyfus, ses amis, ceux qui le soutiennent, le fameux syndicat que les nationalistes français d'alors désigneront à la vindicte de la populace. Donc vous voyez que c'est un vieux truc dans l'histoire de France. Et on retrouve, bien sûr, au moment où Léon Blum préside le gouvernement du Front Populaire, où il est Premier ministre, si vous voulez, du Front Populaire, vous allez retrouver le même type d'attaque contre les élites de l'oligarchie, si vous voulez, libérale de l'époque. On dit de Blum qu'il est l'esthète pourri à la vaisselle d'or. Ça, c'est un discours vraiment typiquement d'antiparlementarisme d'extrême droite. Et on dit d'Herriot qu'il ressemble à un bœuf gras. On retrouve d'ailleurs ce que Birnbaum développait sur les gros et les petits. Hein, les petits ont toujours désigné les oligarchies financières ou politiques comme étant grasses, comme étant obèses, comme étant adipeuses, comme étant grosses. Ça, c'est un truc qu'on retrouve qui est absolument constant.
Est-ce que du coup, ça vous conduit, Alexis Lacroix, à considérer que ce que l'on vit aujourd'hui nous renvoie aux années 30, par exemple ?
Alors, il faut se méfier de la comparaison avec les années 30, non pas en raison de l'antiparlementarisme, qui est commun, non pas en raison, je le pense, de leur commune capacité aux antiparlementaires d'alors comme aux antiparlementaires d'aujourd'hui d'esquinter la République, de l'éreinter, voire de la renverser. Donc je ne minimise pas la gravité de l'antiparlementarisme. Mais en revanche, il y a une chose qui est différente dans le contexte, et c'est une différence quand même majeure. C'est qu'il n'y a pas au cœur de l'Europe, une puissance totalitaire qui incarne une alternative au système. Vous voyez, on pouvait dire dans les années 30, on pouvait soutenir Blum, non pas parce qu'on adhérait à la politique de Blum, mais parce qu'on ne voulait pas d'Hitler. Aujourd'hui, l'alternative au macronisme que représente Salvini n'est pas comparable au danger qu'était l'hitlérisme. Donc, jusqu'à un certain point, il y a un climat commun, mais il n'y a pas de similitude politique absolue des contextes. Vous voyez, il faut penser les ressemblances, et moi je suis aussi, entre guillemets, un historien des idées des permanences, mais il faut reconnaître que ces permanences ne veulent pas le dire équivalence.
Et jusqu'où voilà. Vous poussez ces ressemblances, vous, Sylvain Bourmeau, dans votre analyse ?
Mais je pense que il faut pointer des phénomènes de récurrence, des échos. Il faut utiliser la méthode comparative, parce que c'est l'un des modes de connaissance dont on dispose. Donc comparer deux situations historiquement à distance, mais tout en sachant ce qu'on fait quand on le fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rabattre sur le présent des situations historiques. Exactement comme quand on compare deux pays, on ne peut pas rabattre. Mais c'est par la comparaison qu'on voit les ressemblances, les différences, et ça nous aide à mieux comprendre. L'autre écueil qu'il faut éviter, c'est de tomber dans des formes, et il y en a beaucoup, d'essentialisme. C'est-à-dire de considérer qu'il y aurait quelque chose comme le fascisme qui voudrait dire la même chose en 1930 et en 2019. Je crois que ça, c'est un rapport à l'histoire des idées dont beaucoup d'historiens maintenant ont montré qu'il n'était pas très sérieux. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte des dynamiques sociales. Il faut faire une histoire des idées qui est aussi une histoire sociale, une histoire culturelle, une histoire politique, et ne pas s'attacher à des mots comme ça, comme à des fétiches. Ça n'a rigoureusement aucun sens.
Si on se décolle deux minutes de la simple question, pourtant très importante, qui m'occupe, moi, dans mes travaux, de l'antisémitisme. Élargissons la focale sur le présent, hein, sur les misères du présent. Vous avez donc cette attaque italienne, concertée d'ailleurs entre l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles, contre la France. La France est néocoloniale, la France incarne une position pro-européenne inadmissible, et la France, par ailleurs, donc, est à l'origine de tous les problèmes de l'Afrique et de l'immigration. En gros, si vous voulez, c'est le package. Bon. Mais ce qui est tout à fait saisissant, et là, ça joue en faveur de la résonance avec les années 30. Mais c'est que dans les années 30, vous aviez le parti de l'étranger en France, contre Blum, contre les républicains, modérés, libéraux. Vous aviez des gens, déjà à l'époque, qui étaient d'extrême droite ou qui étaient d'extrême gauche, qui admiraient les systèmes totalitaires et qui, au fond, les jouaient sciemment contre la République en danger. Donc, il y a une similitude jusqu'à un certain point aussi sur le plan culturel, quand on a ces souverainistes extrêmes qui regardent avec des yeux de biche Salvini, ils sont en train non seulement de trahir leur pays, mais de faire le lit peut-être d'un totalitarisme futur.
Que pensez-vous de ces souverainistes extrêmes qui regardent avec des yeux de biche l'Italie?
Oui, non, mais c'est un peu le problème, c'est que s'il y a un discours souverainiste extrême, c'est parce que les gens ont le sentiment d'avoir été dépossédés de la souveraineté nationale et populaire. S'il y a un discours anti-oligarchique qui parfois devient délirant parce qu'il s'accroche sur les juifs, mais s'il y a un discours anti-oligarchique, c'est parce qu'effectivement, il y a des politiques économiques qui sont menées et qui sont des politiques favorables à une petite minorité de gens aisés. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que faire des marches, c'est bien beau, mais il faut quand même s'attaquer au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est une politique économique qui est une politique de classe, et dans le cadre d'une Europe qui est une Europe de classe, qui a été voulue comme une Europe du marché unique, avec la libre circulation intégrale des capitaux, avec une monnaie comme instrument fédéral principal. Dans ce contexte-là, effectivement, on a une Europe de classe avec c'est un moyen qui a été choisi pour pouvoir mener une politique anti-populaire.
Sur la qualification du moment qu'on est en train de vivre, alors tout à l'heure vous disiez, Sylvain Bourmeau, il faut faire attention à ne pas calquer des termes du passé sur le présent, notamment le fascisme. Je voudrais vous citer ce que disait il y a quelques jours de cela dans le journal du dimanche Bernard-Henri Lévy à ce sujet. Il dit « Quand les gens vont-ils comprendre que le fascisme n'est pas une aberration de l'histoire, mais une catégorie politique à part entière, ou même mieux, un type de régime ?» Il ajoute « Le fascisme est appelé, hélas, à connaître de nouveaux avatars. Lorsque l'avatar arrive, il faut le reconnaître et savoir l'appeler par son nom. Est-ce qu'aujourd'hui, on est confronté à un avatar du fascisme?
Mais le problème de Bernard-Henri Lévy, c'est qu'il crie au fascisme depuis toujours, en fait. C'est son métier. Donc, c'est absolument pas crédible, ce discours.
Mais peut-être a-t-il raison de le faire.
Non, mais le fascisme, c'était dans un autre contexte. C'était à l'ère des masses. Là, on est à l'ère de l'individu atomisé, avec tout ce que ça génère, justement, l'anomie, la désappartenance, à la fois nationale, mais aussi la désappartenance aux partis politiques, l'affaiblissement des syndicats, tous les cas d'identification collective ont disparu. Donc tout ça génère énormément, d'abord, d'anomie et une tendance au repli communautaire. Et si vous voulez, le problème, c'est que quand il n'y a plus la nation comme cadre politique englobant, ben, vous avez les tribus à la place. Et le problème des tribus, c'est qu'elles s'affrontent entre elles. C'est la disparition de la catégorie citoyen et de la nation citoyenne qui génère des affrontements de type tribaux.
C'est excessif, Alexis Lacroix et Sylvain Bourmeau, de parler de moments fascisants aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut
pas
être...
Lévy, je crois pas que Lévy parle de moments fascisants. En revanche, son métier, pour répondre à Coralie, c'est pas de dénoncer le fascisme avec sa chemise blanche depuis 35 ans.
Mais
c'est
si,
pas
il fait ça.
Ça
depuis toujours.
Non, mais vous avez pas compris Bernard Lévy. Vous l'avez sans doute pas lu, Coralie.
Si, j'ai lu l'idéologie
métier,
française.
L'idéologie française, c'est pas ça. L'idéologie française, c'est un opérateur d'intelligibilité qui ne crie pas au fascisme, c'est pas ça, mais qui nous donne des repères historiques en termes d'histoire des idées pour repérer, j'allais dire, l'odeur de très caractéristique.
Il la localise en France. Mais alors attendez, la France est la matrice du fascisme.
Mais attendez, non, ça vous confondez avec Sternel. Il dit pas ça.
Il dit
qu'il y a eu à plusieurs épisodes de l'histoire, et notamment on y faisait référence tout à l'heure, le boulangisme, puis l'affaire Dreyfus, puis cette espèce de surjon de ce rejeu de l'affaire Dreyfus, hein, qu'ont été les années 30 françaises. Il y a eu des bords à bords entre l'extrême gauche et l'extrême droite qui effectivement appartiennent au cours le plus intérieur du fascisme. Mais c'est pas pour dire que le fascisme est inhérent à la France, ça n'a rien à voir. C'est que simplement la France a été le terrain d'expérience.
Il a une vieille habitude de disqualification.
Relisez,
mais je l'ai lu.
Non, c'est faux. Et relisez bien l'idéologie française, c'est pour la République en France contre la tentation fasciste. Donc le républicanisme de Lévy ne peut pas être mis en cause, il aime autant que vous la nation France comme l'aimait Marc Bloch. Donc vraiment.
Ah non, il se déclare patriote européen.
Non, il est aussi patriote français, il aime la République, il s'identifie à cette République comme le faisait Marc Bloch. Donc visiblement, vous n'avez pas lu le livre, mais relisez-le, je vous assure. Non, mais un mot quand même sur le contexte plus global. Évidemment que Sternel, il a raison quand il présente un modèle un peu épuré du fascisme, du fascisme à la française, comme étant quelque chose d'un peu intemporel. Alors, faut pas le tirer trop du côté de l'essence, parce que on est dans un espace politique, c'est-à-dire un espace où il y a plusieurs acteurs, un espace dynamique, un espace qui n'est pas figé. Donc, l'essentialisme, c'est sa limite, bien sûr. Mais en revanche, bien sûr qu'il y a une tentation récurrente, et qu'aujourd'hui, nous avons la conjonction de deux malheurs. L'islamisme politique qui fait un travail en profondeur, là, j'y reviens, qui se conjoint avec cette tentation. Alors, on l'appelle comme on veut. Moi, je pense que le mot populisme, national-populiste, suffit. C'était le terme de Taguieff, le concept de Taguieff. À mon avis, il est bien mieux que néo-fasciste, qui en plus va faire excessif. Donc, il y a une tentation national-populiste qui ne doit rien à l'islamisme, mais qui malheureusement le conforte à distance.
C'est un terme qui vous convient davantage, Sylvain Bourmeau. Je vous poserai aussi la même question après, Coralie Delhomme. Le national-populisme plutôt que le fascisme, pour caractériser les mouvements qui sont à l'œuvre aujourd'hui.
Je pense qu'on fait fausse route quand on essaie de débattre, de chercher le bon terme. L'important, c'est pas le mot, l'important, c'est pas le nominalisme. Peu importe, à la limite, je peux lire trois chercheurs différents qui auront mis trois étiquettes différentes. Ce qui m'intéresse, c'est pas les étiquettes, c'est les analyses qu'il y a derrière, qui permettent de comprendre ce qu'il y a à la fois de nouveau dans ce qui se passe et ce qui découle d'une histoire, parfois d'une histoire longue. Il faut tenir les deux bouts. Il faut essayer.
Il y a quand même des termes, Sylvain Bourmeau, qui permettent aussi peut-être de mesurer la gravité d'un phénomène. Quand vous dites tout à l'heure, par exemple, le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Vous choisissez bien aussi un terme.
Non, mais ça, c'est factuel. C'est factuel.
C'est pas ce que disent les gens du Rassemblement national.
C'est pas une question de degré. C'est absolument factuel. Ça ressort d'enquête et de positionnement. En fait, la question est pas de graduer, de trouver le mot qui va dire le niveau de gravité. Le premier travail qu'on doit faire quand on est intellectuel, journaliste, c'est de décrire ce à quoi on assiste au fond. Et à la fois, et j'insiste là-dessus, dans ce qu'il y a, ce qui nous semble inédit, ce qui nous semble nouveau, et Dieu sait que ce mouvement dont on parle aujourd'hui est inédit, et en même temps, en essayant de comprendre ce qu'il peut charrier d'une histoire longue. On est toujours pris dans cette double dynamique au fond. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie dépensée sur les mots qui sont c'est un peu vain en fait. L'important c'est ce qu'on met derrière les mots.
C'est vrai que quand un Chalençon par exemple fait entendre son espoir que il y a un homme fort.
Alors Chalençon, faut dire, voilà, c'est un des membres des Gilets jaunes un peu médiatisés, bon, même très médiatisés.
Quand il fait entendre son espoir qu'il y a un homme fort au fond, une sorte de Pierre de Villiers non démocrate qui viendrait dégager le président de la République, là, je suis désolé, effectivement, on n'a pas besoin d'être grand clair pour entendre quelque chose qui est cette espèce de clameur caractéristique du fascisme quand il revient et qu'a raison Lévy dans ses bouquins a toujours mis en exergue. C'est incontestablement fasciste, si voilà, vous voulez. Hein. Chalençon est fasciste, oui.
Voilà, vous évoquez Pierre de Villiers, je rappelle que c'est l'ancien chef d'état-major des armées. Coralie Delhomme, oui, national-populisme, fascisme.
De la même façon que Sylvain Bourmeau, je pense que c'est pas la qualification qui est la plus importante. La chose la plus importante, ce sont les causes. Et quand vous avez effectivement ce genre de personnage comme Chalençon qui appelle à un homme fort qui puisse reprendre en main le destin du pays, etc., il faut aussi s'interroger sur les causes de cela. Les causes de cela, c'est l'impuissance du politique. Et notamment, dans le cadre de la mondialisation, le fait qu'on a l'impression que ce ne sont plus les peuples qui sont souverains, mais c'est le marché, c'est l'économie. Voilà, il y a un appel au retour du politique et à la prise de contrôle de l'économie par le politique.
Il y a l'interrogation sur les causes, mais il y a aussi l'interrogation sur les effets de ce type de discours, Coralie Delhomme, c'est-à-dire justement appeler à ce qu'il y ait peut-être davantage d'autorité. Là, ce fameux personnage Chalençon, j'ai oublié son prénom, je préférais qu'on dise aussi son prénom, parce que ça fait toujours un peu bizarre quand on appelle les gens uniquement par leur nom. Christophe Chalençon, qui dit aussi qu'il y a des paramilitaires qui sont prêts en gros à prendre le pouvoir. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux, au premier degré, ou bien est-ce qu'il
non,
faut...
C'est sûr que c'est un discours inquiétant, mais encore une fois, tant qu'on n'aura pas réglé les causes, on pourra toujours faire des marches, ça suffira pas. Les causes, c'est la crise économique, la crise identitaire, la crise démocratique. Désolé d'y revenir, mais c'est ça.
Alors, Alexis Lacroix, en républicain, identitaire, on l'a pas vraiment entendu sur les ronds-points. On l'a entendu dans la bouche du président de la République, pas sur les ronds-points.
En bon républicain, je ne vais pas proposer une motion de synthèse entre l'approche, on va dire, social-démocrate de Sylvain et puis l'approche, disons, plus eurocritique que Coralie nous propose.
Vous n'allez pas le faire, mais vous êtes tenté de le faire.
Oui, je suis tenté de le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il faut penser les deux malheurs, je l'ai dit, donc jonction, l'islamisme et le national-populisme français. Mais il y en a un troisième qui, d'une certaine manière, se frotte les mains, ne peut être que content, en quelque sorte, si vous voulez, de ces réponses-là. C'est le néolibéralisme dans son cynisme effréné. C'est vrai que Coralie fait une allusion, si vous voulez, l'économie mondialisée d'aujourd'hui favorise l'anomie et favorise le sentiment que beaucoup d'individus peuvent avoir d'être complètement superflus dans la machine. Donc je ne suis pas en train d'excuser le fait qu'ils se raccrochent au conspirationnisme, mais en revanche ça peut être une des causes explicatives. Pourquoi dans des époques qui sont très secouées économiquement, il y a tant de gens qui se raccrochent aux théories les plus absurdes? C'est parce que malheureusement leur condition sociale à la base est fragilisée. Et c'est sûr que si on est un peu républicain, on ne peut pas simplement voir le verre plein du conspirationnisme et de l'antisémitisme. On doit aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces discours qui sont profondément anti-républicains, qui sont des discours de sédition révolutionnaire, prennent tant d'espace mental chez nos contemporains, mais c'est parce que malheureusement, ils ont largement été précarisés depuis des dizaines d'années.
Et je remarque une fois de plus votre habileté, Alexis Lacroix, puisqu'en proposant de faire la synthèse, vous proposez aussi de faire la conclusion, ce qui tombe plutôt bien d'ailleurs, puisque on est au terme de cette discussion.
Merci
beaucoup. Mais écoutez, vous avez une montre, c'est pour ça, vous avez vu que c'était presque la fin de l'émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'y avoir participé. Sylvain Bourmeau, Coralie Delhomme et Alexis Lacroix. Je renvoie à la lecture de J'accuse, permanence de l'antisémitisme, que vous avez publié l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Cette émission, vous pourrez la réécouter sur franceculture.fr, la télécharger également. N'hésitez pas par ailleurs à nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledoux et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras avec à la prise de son Éric Carrère, Célia Dufour et Philippe Mercher.